Cœur de Sex Worker,
créé par Romy Alizé et Elisa Monteil.
Je m'appelle Romy. Romy Alizé. Un prénom composé, inventé de toutes pièces par ma mère. Une Française. Mon nom de famille, lui, est grec. Grec comme mon père. Un père pas fier, pas trop là. Un figurant. Je suis née le 7 mars au Sable d'Olonne, petite ville de Vendée, le pays maritime de mon adolescence décalée, boudinée que j'étais dans d'improbables corsets en dentelle noire. Je ne me sentais pas seule, mais pas très entourée non plus. L'espoir de partir a imprégné toutes ces années passées à observer l'océan et à regarder Buffy contre les vampires. Ouf ! J'étais pressentie pour faire des enfants tôt, comme ma copine Marilyn, devenir secrétaire, comme sa sœur Amandine, et finir, comme bien d'autres, divorcée, désespérée, cheveux méchés. Mais ça, c'était sans compter sur mon sens du scandale. Collège Notre-Dame de Bourgenay, salle de permanence. Au milieu de mes camarades qui déroulent leur plan de carrière de médecin ou ingénieur, singeant fièrement leur géniteur, je ne sais pas ce qui me prend, mais je monte sur ma chaise et lance. Moi, plus tard...
Moi, plus tard, je serai actrice porno. Madame, je vous dis que moi, plus tard, je serai actrice porno. C'est tout écrit. Moi, plus tard, je serai actrice porno. Madame, je vous dis que moi, plus tard, je serai actrice porno.
Cette anecdote figurera probablement au prochain tome de Histoire, légendes et mystères de Vendée, terre de personnages prestigieux, de guerres héroïques et de préfous gourmands. Reste à savoir qui osera en signer la préface. J'aime les filles depuis longtemps, depuis que je sais que c'est possible. Gamine, je fis la connaissance d'un sacré couple lesbien, possiblement le seul que les Sables d'Olonne aient jamais connu. Laurence et Nadine, deux amies de mon oncle. L'une portait des Santiago, des gilets sans manches en jean, mulets au vent, l'autre, des joggings noirs et de grands t-shirts années 80, avec des cheveux super longs. La légende raconte que Nadine aurait quitté Laurence pour fonder une famille avec un homme. Hélas, cette légende dit vrai. Et sans que je le sache, ce fut le tout premier drama lesbien auquel j'assistais. Moi, Romy, je suis donc lesbienne et travailleuse du sexe. Pendant longtemps, on m'a fait croire que ces deux étiquettes étaient incompatibles. Et puis j'ai lu, j'ai vu, j'ai fait des rencontres et j'ai compris deux ou trois trucs. Ce qui n'est pas nommé n'existe pas. Et pourtant, nous existons. Et depuis longtemps.
Alors attends, parce que du coup on va changer de... Logiquement on devrait aller à droite, mais on va passer par là.
Suzette. Suzette Robichon, c'est une activiste féministe et lesbienne qui est aussi éditrice et journaliste. C'est par exemple grâce à elle que la pensée de l'autrice lesbienne Monique Wittig est super vivace aujourd'hui. Mais elle a surtout participé à la réédition des correspondances amoureuses de Liane de Pougy et Nathalie Clifford Barnet. Oh,
magnifique. Suzette, je suis émue.
Ah oui, ça sent tout ça.
C'est comme ça.
Alors, on est au cimetière de Passy, où est la tombe de Nathalie Clifford Barnet, qui a donc écrit des livres lesbiens qui sont en train d'être réédités, qui sont très connus, Pensée de l'Amazone, je me souviens.
Illusion romantique, passion saphique, courtisanerie, jalousie, regret. Tout ça en 172 lettres écrites à la fin du 19e siècle et totalement inédites jusqu'à cette publication.
Il y a des fleurs qui sont amenées comme ça,
ouais.
Comme la...
Oui.
La nôtre, du jour.
Voilà, comme la vôtre, du jour.
Moi, je verrais bien
c'est
comme ça.
Oui, c'est d'accord, parce qu'avec le vent...
Ouais.
Voilà, très joli. Yann de Pougy, c'est une jeune femme qui se retrouve, qui quitte son mari à 19 ans, qui monte à Paris, et qui a un fils d'ailleurs qu'elle a son mari, et qui n'a pas tellement le choix, qui a le choix entre être travailler comme, je ne sais pas, couturière, enfin j'en sais rien, ce que pouvaient faire les jeunes femmes de l'époque, il y avait beaucoup de couturières, et qui rencontre Valtès de la Vigne, qui est une autre de celles qu'on appelle les grandes horizontales à ce moment-là, qui va lui enseigner le métier de courtisane, qui lui apprend qu'effectivement le métier c'est tu vas où on t'appelle, et tu ne cèdes pas tes élans amoureux qui t'amèneraient ailleurs.
Ah oui, elle lui dit ça
Elle lui dit ça à un moment donné, oui, effectivement. Et elle va devenir extrêmement connue, et elle, on l'appelle le passage des princes.
Et donc, la rencontre entre Nathalie Barnet et Liane de Pougy.
La rencontre s'est faite au bois, où effectivement, il y a Nathalie est en France, ça fait longtemps qu'elle vit en France. Elle a 23 ans, elle va au bois, puisque c'est un lieu où on va se promener et se montrer, et où d'autres vont se montrer.
À cette époque-là, Nathalie Barnet, elle est connue dans un certain milieu. Est-ce que Liane de Pougy sait qui est cette jeune fille ou,
Elle va le savoir très vite. Ouais. Elle va le savoir très vite parce que, d'abord, vu la quantité et la qualité des fleurs qu'elle envoie, elle n'envoie pas trois petites rues. C'est des monceaux. C'est des monceaux ou de lys.
Vous êtes
ou
en train de critiquer notre bouquet?
Non, je ne critique pas le bouquet, mais tu sais, au cadeau que tu reçois.
Je pense que Nathalie n'est pas contente de ce que je
fais. Non, pas du tout. Mais je pense qu'à la qualité des cadeaux que tu reçois, tu peux imaginer un petit peu la fortune. Puis tu te renseignes. Le monde est quand même très petit aussi à ce moment-là.
Il y a quand même un manque de modèles ou de références littéraires ou autres de lesbienne qui était travailleuse du sexe.
Moi, je pense d'abord que la définir comme lesbienne travailleuse du sexe, c'est un terme totalement contemporain. Il n'est pas du tout sûr qu'elle se dise lesbienne. Mm-mm. Ça, c'est clair, mais elle n'est pas la seule là-dessus. C'est pas parce qu'elle a des aventures et des amours avec des femmes qu'elle va se dire lesbienne. Et travailleuse du sexe, elle dit très bien que c'est un travail qu'elle fait, ça, c'est clair.
Elle le dit clairement.
Elle le dit clairement. Mais moi, je préfère parler de la manière dont on l'a traitée à l'époque et dont elle se définissait, à savoir une courtisane. Ouais. Parce qu'à l'époque, il y avait aussi des travailleuses du sexe qui faisaient ce qu'on appelle le tapin ou autre. On le voit dans toutes les chansons populaires de l'époque. Mais pour elle, c'est un autre monde. Ouais. C'est carrément un autre monde. Elle est dans le grand monde.
Ouais, c'est ça. Bon, alors moi, il y a des petits passages que j'adore. Bon, il y a déjà une lettre, page 175.
Ah oui.
Justement, où elle parle de l'honnêteté de son travail.
Oui, c'est ça, oui.
Liane. En fait, ça pourrait être vraiment écrit par une travailleuse du sexe actuel. Franchement, ça me semble complètement hyper contemporain. Mmh. Tout ce qu'elle dit, quand elle dit « je ne vole l'estime de personne »,« tu m'ennuies à me répéter toutes ces sornettes sur ma vie est probablement moins hypocrite, moins fausse et aussi moins calcul et intérêt que la tienne. Ce que je le fais ouvertement et sans arrière-pensée. Chacun connaît mon but et je cours les risques et dangers de ce que je fais. » C'est très affirmé, elles n'ont pas l'air d'avoir peur de se dire des choses qui fâchent.
Mais t'as vu la suite ?
Et bien sûr.
Oui, maintenant cette vie me pèse certainement car j'ai en moi d'autres aspirations. Et un petit sentiment honnête et bon au fond, des rêves. Mais puisque tu ne peux m'en faire sortir, à quoi bon me le reprocher ? Tu sais très bien que si j'avais de quoi vivre pour toujours, jamais un homme ne m'aurait touchée.
Donc Nathalie, elle est en concurrence avec un monde en fait.
Elle est en concurrence avec un monde d'hommes qu'elle déteste.
Et moi, je me demande si toi, dans ta vie, tu en as rencontré en fait un peu des Liane de Pougy, en version contemporaine bien sûr, pas des célébrités.
Non, pas des célébrités.
Mais est-ce que tu as connu des lesbiennes qui étaient aussi travailleuses du sexe, prostituées?
Oui, j'en ai connu quand j'étais journaliste et que je travaillais. En particulier, qu'il y a eu la grève des prostituées à Lyon et à Paris, oui, à ce moment-là, bien sûr. Quand j'ai fait des reportages, j'en ai rencontré. Plusieurs qui, bon, comme moi j'étais ouvertement lesbienne, on a parlé ouvertement de leur vie et de tout ce qu'elles traversaient, qu'elles vivaient ou autre. Ouais. Quand il y a eu la grève des prostituées ou autres, les féministes, étaient, parmi lesquelles évidemment tout un tas de lesbiennes, étaient extrêmement présentes et étaient là.
Lorsque j'ai débuté ma formation de comédienne à Paris, j'imaginais devenir une sorte de Mademoiselle Raucourt. À la fin du XVIIIe siècle, l'actrice triomphe à la Comédie française. Elle est adulée. La légende raconte même qu'elle aurait présidé la secte des Anandrines, une société secrète de femmes lesbiennes issues de la noblesse parisienne qui conspirait contre le patriarcat sous Louis XVI.
célébrité.
Attendez, elle n'était pas royaliste, la Raucourt ? Oui, bon, bah, ouais, hein.
Oui, Amar, c'est Romy.
Je connais Amar depuis des années. Enfin, plus précisément, je vois, j'écoute et je lis Amar depuis des années.
Ça va ? Dis-moi, t'es bien au 83, hein, c'est ça ?
Amar, c'était cette personne qui était de tous les événements liés au travail sexuel, où que j'aille. Charismatique et brillant, il m'intriguait et m'impressionnait un peu aussi. Je crois que je n'ai pas tout de suite compris qu'il était queer.
T'as passé le contrôle. Ok. Ah ouais, ok. Eh ben écoute, j'arrive. J'arrive dans 2 minutes. C'était pour être sûr, comme il y a plein d'entrées. À tout de suite.
On est bien là.
Ok.
Alors, Amar.
Oui.
Amar.
Qu'est-ce qu'une femme, une personne assignée femme qui exerce la prostitution ? Bah, c'est comme un homme. Elle est indépendante financièrement, elle circule dans la rue. Il y a même des traités sur le fait qu'elles ont la voix plus rock que les femmes dites normales, donc qui ne sont pas pathologisées, qu'elles ont un appétit particulier pour la cigarette et l'alcool, comme les hommes. Donc vraiment, il y a tout un mouvement comme ça, hygiéniste et néo-réglementariste, donc vraiment au début du 19e siècle, puis qui va se poursuivre un peu après la Commune. C'est pas des vraies femmes, quoi. Déjà, à l'époque, ce qu'ils cherchaient à saisir, c'est la norme dans le genre. La recherche, c'est aussi un récit de soi. Donc, ça venait toucher à des choses qui m'intéressaient du point de vue personnel, hein, enfin, de ma propre sociologie, aussi de qu'est-ce que c'est s'affirmer travailleur ou travailleuse du sexe aujourd'hui, comment ça s'est construit, cette identité-là, historiquement. Et...
Ouais. À ce moment-là, il y a un type en costard qui arrive. Il nous demande d'interrompre l'enregistrement. C'est le boss de la communication de la Pitié-Salpêtrière et il veut savoir ce qu'on fait là. Sur le coup, je me demande qui de Gilles, Elisa ou moi va résumer l'objet de ma rencontre avec Amar. Monsieur, ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. On tourne un documentaire sonore sur des gouines qui sont aussi des putes, enfin des travailleuses du... Bon, enfin bref, aucun hôpital ne sera maltraité pendant ce tournage. Bon retour dans votre bureau.
Merci. En fait, il y a certains bordels qui seraient spécialisés pour les femmes lesbiennes. Et en fait, moi je trouve que c'est pas déconnant en fait, parce que si tu considères que y a une mauvaise féminité qui concerne les prostituées, bah, y a une mauvaise féminité pour les femmes lesbiennes. Enfin, c'est une féminité qui sort du cadre reproductif, donc on suspecte à un moment donné, donc les prostituées qui seraient un peu des hommes ratés, d'être lesbiennes forcément.
C'est quoi toi ton expérience avec le corps médical ? Parce que, comme tu disais tout à l'heure, y a une part de soi dans la recherche.
L'expérience que j'ai avec le corps médical, c'est dramatique. Alors, quand tu expliques à quelqu'un que tu es travailleur du sexe, trans, bisexuel, etc., etc., là, il y a un truc, tu sais, les médecins, ils ont la tête qui explose comme dans les cartoons. C'est-à-dire qu'il y a un impensé complet autour de ça. Au-delà de ça, ayant aussi des maladies... j'ai de l'endométriose, par exemple. Et donc là, on vient me dire, ah, mais oui, t'as une pathologie, mais c'est normal, c'est à cause de ton métier.
C'est vrai que là, il se met à pleuvoir beaucoup et mes cheveux vont mousser. Et donc, je te propose qu'on aille dans la chapelle.
Ok, allons-y.
J'ai des élans comme ça où j'ai besoin de prendre
des élans. Merci.
Moi, je me demande si... Non, ça me rend toujours curieuse. Est-ce qu'il y a un lien entre le travail sexuel donc, que tu exerces, ta sortie de l'hétérosexualité et voir ta transition?
Pour moi, il n'y a pas de lien entre la sortie de l'hétérosexualité et l'exercice du travail du sexe, et, ni avec mon identité de genre. En revanche, ce dont j'ai commencé à me rendre compte, c'est que en fait, mon personnage que j'exerce dans le travail du sexe, c'est un personnage que je considère comme une drag queen, donc avec tout cet artifice donc de lingerie, de maquillage, de performance en fait, de la féminité, de performance de l'hétérosexualité. Et ça, je pense que ça m'a aidée en fait, à trouver quelle est ma véritable identité en dehors du travail du sexe. Même si, évidemment, parfois c'est dur en fait, de performer aussi fort et aussi longtemps l'hétérosexualité, parce que je travaille quand même pas mal. Et du coup, parfois, tu es enfermée dans ça. Mais paradoxalement, en ce moment, ce qui se passe, c'est qu'il y a un effet de « Ah ouais, en fait, ça permet d'avoir une masculinité plus fluide, un peu plus pédée, un peu plus moins binaire, en fait. »
Ça fait combien de temps que toi, tu travailles en tant que TDS ?
Alors, j'ai commencé le TDS à 18 ans, quand je suis arrivée à Paris. Et je ne considérais pas du tout que c'était du travail du sexe, puisque j'échangeais des prestations sexuelles contre des repas. Et c'est important de parler aussi de ces recours-là au travail du sexe, qui ne sont pas des recours ultra joyeux, ultra... Enfin voilà, c'est comme ça en fait. Mais oui, ça fait un moment, hein. J'ai 33 ans, ça fait un petit moment.
Et là, je lui dis, on se retrouve en manif ?
On se revoit très vite en manif, j'ai bien l'impression.
Oui, tout à fait.
Derrière une pancarte.
Mais dans la rue, quelques jours plus tard, face aux personnes rassemblées sur une place parisienne, c'est une autre militante que je reconnais.
Merci beaucoup d'être venue aussi peu nombreux, malheureusement. Mais merci à vous qui êtes là, merci beaucoup d'avoir bravé le froid. C'est juste un constat année après année que les putes se font violenter et tuer dans l'indifférence générale. Donc merci quand même à celles qui ont fait le déplacement et qui se sentent concernées par ces luttes. Je voulais juste rappeler que ce soir, on organise une soirée de soutien donc avec le STRAS, le syndicat du travail sexuel, à la Mutinerie, qui est juste sur la rue là-bas. Donc on espère vous y voir nombreuses ce soir.
Oui, c'est nous. Vous êtes toujours à la Mutinerie. On va toujours être belle, être beau, se mettre à poil et vous chanter des chansons. C'est toujours un plaisir quand même édition.
J'ai rencontré No il y a 2 ans, à l'occasion d'un groupe de parole que j'avais organisé pour les putains de rencontres. Les putains de rencontres, c'est un événement destiné aux travailleuses du sexe et leurs alliés qui a lieu chaque année à Paris. Pouvoir échanger simplement sur nos expériences, nos analyses, nos perceptions de ce qui fait une gouine, une travailleuse du sexe, et de ce qui fait de nous des putes et des gouines uniques. Voilà le programme. Je voulais en fait casser l'isolement, qu'on se trouve et qu'on se reconnaisse enfin. Et No était là.
Brave Jean, ne dites rien à maman, rien à maman, en cas de pépin, personne ne sait rien. Je garde tous vos secrets, alors donnant, ça reste entre vous et moi. Imaginez qu'elles viennent faire tout un scandale, qu'elles veuillent me faire fermer boutique au nom de sa morale.
Je m'appelle No, j'ai 26 ans, j'habite à Paris, je suis Gwyn, et artiste et travailleuse du sexe. Je fais principalement de la scène, du drag queer, du chant, du cabaret. Je fais de la comédie musicale. Et du coup, je suis travailleuse du sexe depuis 4 ans et demi, où je fais principalement de l'escorte, un peu de domination et du striptease.
Vous pouvez le dire à mon grand frère, je fais des choses sur lui dont il est pas fier, mais pas un mot, pas petit, pas un mot, pas un seul mot à ma mère.
Si vous voyez maman, bouclez-la.
J'ai toujours été une grosse obsédée du cul. Ça, clairement. Et du coup, j'ai commencé à poser nue à mes 18 ans. Mais vu qu'à ce moment-là, j'habitais chez mes parents, j'avais pas particulièrement besoin de travailler pour payer les études ou quoi. Donc c'est venu un peu plus tard, en fait, quand j'ai commencé à faire des écoles de théâtre où ça a commencé à, à devenir plus cher, j'ai commencé à vivre en coloc et du coup avoir plus de frais. Et en fait, j'ai essayé vite fait, pour dire que je l'avais fait, de chercher un boulot vanille, un boulot classique dans une boutique ou quoi.
Mais en fait, vanille,
un boulot vanille, c'est comme du sexe vanille, c'est un boulot classique, quoi. Dès que j'ai commencé à poster des photos de moi un peu dénudée, bah, je me suis très vite pris du harcèlement dans la gueule. Beaucoup de cyberharcèlement. Et du coup, bah, ouais, j'ai été féministe assez jeune, dès l'adolescence. Très vite, j'ai essayé de m'investir dans les milieux féministes, etc.
Qu'est-ce que tu as vu comme intérêt? Parce que tu aurais pu effectivement faire ça pour payer tes études, mais une fois que tes études ont été terminées, tes écoles de théâtre...
Moi, je fais de l'art, je fais de la scène, donc de toute manière, il n'y a pas beaucoup d'argent. Donc là, j'ai l'intermittence depuis quelques mois seulement, donc effectivement, je peux me permettre de ralentir un petit peu, mais là, je fais l'intermittence aussi grâce au striptease, donc grâce au travail du sexe de toute façon. C'est sûr que je continuerai pas toute ma vie, mais pour le moment, j'en ai encore besoin pour compléter plein de choses. Et vu que je fais du cabaret, bah, j'ai besoin d'acheter des costumes, des perruques, des chaussures, des trucs, des machins. Donc c'est aussi des choses qui coûtent cher. Là, on est le 15 décembre, j'ai toujours pas eu mon intermittence de ce mois-ci, par exemple, je sais pas pourquoi. Donc faut bien que je vive, quoi, quand même.
Oui, moi je rêve d'être payée pour chanter en drague et faire ce qui me plaît vraiment. Appelez-moi Violente Violette Nuitée. Jour j'aimerais danser, performer mes rémunérés. J'ai tant de choses à vous dire. Je vous vois déjà rougir. Est-ce mon âme qui vous effraie autant? Je caresse du bout des doigts les lumières des projecteurs.
Bah moi j'ai décidé que j'étais pas respectable et que j'étais vulgaire et que c'était comme ça et que ça me convient en fait et que je reste une personne quoi. Du coup ouais, j'ai un personnage drag queer, drag fuck qui s'appelle Violente Violette avec lequel j'aime bien raconter des histoires, j'aime bien chanter, parler de trucs politiques, de trucs qui m'importent vraiment. Donc forcément, je parle beaucoup de travail du sexe, je parle beaucoup de féminisme, je parle beaucoup de violence, je parle beaucoup de c'est quoi être lesbienne, c'est quoi être queer, c'est quoi être non-binaire, c'est quoi tout ça. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail du sexe qui sont queer. En fait, le fait de pratiquer le travail du sexe est une forme de dissidence à l'ordre hétérosexuel et patriarcal et... Je dis pas que toutes les travailleuses du sexe hétérosexuelles sont queer, mais je trouve qu'il y a quand même un truc où le fait de pratiquer ce travail-là, ça te décale de l'ordre établi, et du coup, t'as quand même une vision du monde qui est hyper, hyper particulière. Ça te fait avoir un regard extérieur, c'est un peu comme si tu prends la pilule rouge dans Matrix, où tu vois pas les choses de la même façon.
Amar, j'espère que ça va. Je te laisse ce petit vocal parce qu'hier j'étais au rassemblement, du coup, et je ne t'ai point vu. Alors je me demandais si ça allait, voilà, prendre un petit peu de tes nouvelles. Donc n'hésite pas à me laisser un petit vocal en retour si ça te va. Et je t'embrasse très fort. Salut Romy, bah écoute, merci beaucoup pour ton vocal. Je suis vraiment désolée de ne pas avoir pu être là pour le rassemblement. Donc je me suis fait agresser par un client hier et j'avoue que c'était un peu au-dessus de mes forces de faire un discours, de rester un peu d'avoir la tête froide, sachant que j'avais simplement besoin de me reposer et voilà, donc je suis encore désolée pour tout ça. J'espère que toi ça va et je te dis à très vite.
Ouais, coucou Amar. Eh ben écoute, je viens juste d'avoir ton message que j'ai écouté au plus vite et je suis trop désolée de ce que t'as subi. J'espère que ça va, que t'as pu prendre du temps pour toi. Nous, on se remettra de ce rendez-vous manqué sans problème. Après, tout ce qu'on a pu se dire, je l'ai écouté. Et on a beaucoup échangé en fait, sur des théories, sur du savoir. Et j'ai presque l'impression de ne pas t'avoir vraiment rencontré.
Effectivement, je pense que c'est très difficile pour les gens d'avoir accès à mon intimité parce que quand tu es investi dans le milieu du militantisme et particulièrement quand tu défends les droits des travailleurs du sexe, il y a un truc où tu représentes quelque chose, tu es quelque chose symboliquement. Et en dessous, il y a...
Multiple facette au fond de mon être, qu'il est laborieux de me connaître. Une rivière enfouie, un volcan qui surgit, chaque instant amarre pourrait exploser. Perdu le soir dans des affres de timidité. Aucun miroir ne reflète ma réalité. J'ai cru pendant très longtemps que mon destin c'était la violence, quoi qu'il arrive. Que je devais l'accepter coûte que coûte. Et que s'il n'y avait pas de violence, il n'y avait pas de vie. Qu'il fait beau et bon en haut des rochers, mon épée scintille prête à frapper.
Évidemment, j'ai un centre d'intérêt très fort, c'est le sexe. Parce que c'est quelque chose que j'aime tout bêtement et de connecter, enfin j'aime pas trop ce mot, mais en tout cas de se rapporter à certains corps d'une certaine manière, de créer de l'intimité entre ces corps-là, bah, moi ça me répare, ça me fait du bien, ça me grandit, ça m'amplifie, et toucher et se laisser toucher, ou toucher et être touché, sentir des souffles, des odeurs, mouvement, pour moi, c'est extrêmement important, en dehors de la construction sociale de ce que c'est la sexualité. Pour moi, c'est presque poétique. Enfin, le sexe est poétique et le sexe est... Ouais, il y a de la beauté dans ça.
Et c'est marrant parce que pendant longtemps, j'avais ce truc de dire, bah, en fait, moi, le sexe, j'aime ça et je revendique d'aimer ça réellement. J'aime faire l'amour et je veux pas qu'on me le retire. Donc, et j'ai dit, et bien que j'ai, comme beaucoup d'autres personnes, été agressée sexuellement, violée, et ben, je suis bien contente d'avoir pu garder le sexe comme un espace, tu vois, de curiosité, de partage et de plaisir. Pour moi, c'est presque politique de dire, on ne me retirera pas cet endroit de jouissance.
Si mon billet pour Sens dans Lyon indique un départ à la gare de Bercy à 9h20, que j'ai 20 minutes d'avance, que sur l'écran de la gare, il n'y a aucun train au départ à 9h20, d'où part le train ? De la gare de Lyon, pardi !
Voie X, attention au passage d'un train.
Je regarde mon billet, je regarde ma montre et je rate le train. Avec une heure de retard, je retrouve Alette qui avait de toute façon raté son réveil. C'est Noé qui nous a mis en contact. La première fois qu'on s'est parlé, c'était chez elle, à Aubervilliers, autour d'un thé. Et maintenant, je suis dans la version rurale de la vie d'Alette.
Et donc là, on arrive dans... voilà, il y a un petit bout de colline là. Et on est sur le bas de la petite colline de ce côté-là. Et le village qui est entre les deux.
La vie d'Alette, c'est entre autres une formation d'ingénieur agronome, une transition de genre...
Juste à gauche.
32 ans.
Et c'est la maison là qui est sur la droite, tu peux te garer. Ouais.
Cheveux violets, bisexuels et asexuels.
C'est très naturel.
Une colocation joyeuse.
Ah oui, là on monte deux familles à la terrasse.
Et deux chattes absolument sublimes, Artemis et Gojira, dont je tombe instantanément amoureuse.
Ça va ?
Il a attrapé le chat.
Oui, je vois bien. Elle aime beaucoup moins être prise dans les bras, mais elle aime bien...
Elle aime l'attention quand même.
Elle aime l'attention et elle est souvent plus en manque d'attention que Artemis parce qu'elle va beaucoup moins en bas, mais elle n'aime pas qu'on la prenne dans les bras.
Et le consentement félin est très important pour moi. Mais il ne l'a pas toujours été.
Si Jules aime Lola... Si Lola est mania, que moi j'aime Lola, à quatre nous sommes méta.
Qu'est-ce que ça fait d'être asexuel et de travailler avec sa sexualité ?
C'est assez marrant. Je me fais souvent cette réflexion-là de genre je suis ace, donc ace asexuel. J'avais fait le calcul l'autre jour, mais la dernière fois que j'ai eu une relation sexuelle en dehors du taf, c'était il y a 2 ans et demi, et que ça me manque pas particulièrement. Méta, métamour, beau grand jour qui circule, poli, poli, amour, Anya, Jules, Lola et moi, nous sommes un polycule. Et en même temps, j'ai du coup une vie sexuelle dans le cadre professionnel qui est plus active que beaucoup de gens que je connais et que je fréquente. C'est jamais très gênant parce que y a quand même un aspect de théâtre où je vends pas juste une prestation sexuelle, je vends un rôle, je vends du GFE, donc GFE Girlfriend Experience. Je vends en fait un moment où je suis dans mon rôle de la meuf sympa, on passe un moment agréable, comme si c'était un date, etc. Souvent, j'essaye de pas trop m'attarder sur l'aspect argent, c'est-à-dire qu'ils vont me donner l'argent, je le compte discrètement, je le remets dans le sac, et puis je joue ce rôle-là. C'est-à-dire, je markete aussi beaucoup le côté, qu'à la base ça vient du cinéma, mais la Manic Pixie Dream Girl, qui est un peu un archétype de personnage féminin, un peu la moitié des rôles de Zoé Deschanel. Par exemple, son rôle dans Yes Man avec Jim Carrey, où Jim Carrey a une vie toute plan-plan, toute rangée, qu'il trouve nulle, et il finit par la rencontrer, et elle a une vie où genre, elle est très spontanée, elle va d'un coup lui dire « Tiens, on prend un avion et on part à tel endroit, ah, on va tester le saut en parachute, etc. » Donc, c'est un peu la meuf qui va ramener un peu de la couleur dans la vie très nulle et beige de ce mec-là. Et je joue beaucoup, moi, du coup, la Manic Pixie Dream Prostitute, où je le markete comme ça, avec, je dis, je suis très punk, j'ai des tatouages, machin. Je leur parle de ma vie, j'enjolive tous les trucs. En disant, oui, je suis allé aux États-Unis, je suis allé l'État, j'ai fait ça, j'ai fait ça, etc. Et le fait de jouer un rôle, enfin, j'ai fait du théâtre quand j'étais plus jeune, et c'est toujours un truc qui m'a plu, qui m'a beaucoup aidé aussi pour certaines questions d'anxiété sociale, etc., de pouvoir à certains moments me dire genre, ok, voilà, je joue un rôle. Sur mes oraux, par exemple, dans les études, j'ai jamais vraiment stressé, parce qu'à chaque fois, je me disais, voilà, c'est pas moi, qui est jugé là, c'est le personnage que je joue de la personne étudiante qui a bien fait son taf, qui sait de ce dont elle parle, etc. Et c'est un peu la même chose du coup dans le TDS où il y a malgré tout toujours une distance qui permet de bien le vivre et qui vient du fait que voilà, je joue un personnage et je joue un personnage, une meuf très sexuelle et qui adore coucher avec plein de mecs. Et du coup, ce personnage-là le vit très bien et je joue ce personnage-là et donc ça va.
Mais tes parents, toi, sont au courant
Ils sont au courant, enfin, j'ai fait mon coming out transition, mais ils ne sont pas au courant que je fais du TDS. Et ça, je crois, inquiète beaucoup ma mère. La façon de ma mère d'exprimer son amour, ça passe beaucoup par l'angoisse. Le problème là-dessus, c'est que souvent, cette anxiété, elle va surtout être projetée vers moi et que je ne me sens pas en capacité de la recevoir et de travailler là-dessus. Mon coming out, déjà, a quand même pas mal bousculé un peu tout. Mes grands-parents paternels ont refusé de me parler pendant un an et demi. Ils m'ont juste envoyé une lettre en me disant que c'était trop compliqué pour eux et qu'ils voulaient pas et qu'ils pouvaient pas, voilà. Ils ont fini par changer d'avis, un peu, je pense, parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient âgés, qu'ils n'allaient pas vivre éternellement et donc... Enfin, ils se sont un peu dit, genre, bon, là, on comprendra pas, mais on veut juste maintenir un lien avec tous nos petits-enfants, dont moi. Du coup, avec eux, c'est assez apaisé. On parle pas de ma transition, mais ils me genrent au féminin, même s'ils se trompent, je pense que c'est les seules personnes que ça me blesse même pas quand ils se trompent de genre ou de prénom, parce que je vois qu'ils font l'effort, qu'ils essayent, ils se reprennent, ils s'excusent, etc. Et donc, c'est juste... Ouais, très touchant et très beau de les voir juste essayer de rentrer dans le truc, même s'ils n'y comprennent rien. Et même mes parents aussi, même s'il y a des sujets que j'aborde pas avec eux, malgré tout, ils ont progressé et je pense que ça nous a aussi rapprochés parce qu'on peut en parler, parce qu'ils viennent me poser des questions, que je leur en pose aussi et que c'est pas uniquement parce que on a des liens biologiques que je les considère comme ma famille, mais ceci parce qu'on a reconstruit ces relations-là qu'on arrive à en parler, à l'évoquer.
Quelles sont tes aspirations en fait pour l'avenir? C'est quoi tes rêves?
Attends Romy, je te coupe. Ce soir, Lola dort avec moi au premier étage avec le chat. Demain, qui sait où l'on s'allongera. Polyméta, amour, nous voilà.
Alette se roule une clope. Discretos.
J'ai essayé de faire ça discrètement, mais ça s'entend sûrement un peu. J'arrive mieux maintenant à me projeter et à écouter un peu mes envies pour le futur, etc. Mais c'est quand même relativement récent dans ma vie. Et j'ai surtout, je pense, des aspirations et des envies plus sur le type de vie et d'espace de vie que j'ai envie de construire. J'ai pas trop d'aspirations au niveau professionnel ou en tout cas façon de gagner sa vie. Je pense que je commence à réfléchir à potentiellement avoir des enfants. Enfin, c'est un truc qui est arrivé assez récemment, mais de me dire... pourrait être un truc enthousiasmant d'élever des enfants. Je roule pas sur l'or, mais j'arrive à dégager du revenu. Ça me plaît toujours, donc je continue là-dessus. Aussi parce que j'ai cette sécurité que représente mon sugar daddy.
Tu peux nous expliquer ce que c'est sugar daddy?
Ça va être un type de TDS qui va être plus dans la durée, je dirais, là où l'escorting, ça va être des rendez-vous... ponctuel, avec un tarif précis sur, genre voilà, je prends 200 de l'heure, je vois cette personne pendant une heure, on couche ensemble, on passe un moment ensemble. Sugar dating, ça va être beaucoup plus dans la durée, et il va y avoir beaucoup plus de relations de couple quasiment, où là actuellement, par exemple, avec cette personne, où je compte pas les moments où je le vois, il n'y a pas vraiment de principe de... on se voit à tel moment, on couche ensemble à tel moment, etc. On est beaucoup plus dans une gestion quasiment de couple.
Un CDI ?
Ouais, un peu. C'est un peu ça. Je me projette pas trop au niveau professionnel, quoi.
T'as dit quoi ? Tu passes où ?
on va pas être très confortable. Hein.
Mais sur le canapé, on n'est pas confortable parce qu'il n'y a pas de fauteuil. Elle rigole, elle va le mettre sur Internet, ce que je dis.
Lorsqu'à 20 ans, j'ai pris la décision de faire du porno, j'ai tout de suite appelé ma mère pour l'interroger. Serait-elle toujours ma maman après ça? J'avais déjà un parent de moins que les autres, alors pas question de perdre les deux.
T'as pas remarqué, Jésus, il a perdu un œil quand même.
Ma mère a dit oui, et 6 ans plus tard, j'étais enfin à l'affiche d'un vrai porno lesbien et féministe.
Ah oui, il manque un œil. Bah non, mais c'est un vieux, quoi.
En revanche, le jour où j'ai ramené ma première petite amie à la maison, elle a eu peur. Étonnamment, des deux coming out, c'est celui de lesbienne qui a été le plus décisif. J'ai rompu le peu de liens qu'il me restait avec mon frère et mon père. On peut pas dire qu'ils approuvaient mes activités artistiques, mais au moins, si j'étais avec un homme, j'étais quelque part tenue. Alors, quand j'ai amené ma petite amie au village de mon père, près de Thessalonique, en Grèce, j'ai compris ce que voulait dire se cacher.
Regarde déjà dans le micro-ondes s'il n'y a pas ma tasse dedans. Ma tasse est dedans.
Non.
Donc, elle doit être là-bas près de mon ordi. T'en veux un aussi?
Ouais.
Est-ce que tu te souviens de la première copine que j'ai ramenée et de ce que ça a pu te faire? Est-ce que tu te rappelles à quelle époque?
Je me souviens, Marletta, c'est ça? Et quand tu me l'as ramenée, en me disant que c'était ta petite amie, ah ben oui, qu'est-ce que c'est que cette histoire, quoi, là? Qu'est-ce qui lui arrive? C'est chaud. Mais bon, moi, je suis quand même d'un caractère généreux, j'accueille et je constate et j'admets, quoi. Je suis plus dans une famille très, très traditionnelle, donc va annoncer ça. Après,
oui, mais t'as des...
c'est peut-être con, parce que dans la famille, finalement, tout le monde aurait pu t'accepter quand même. Mais c'est les on-dit, et puis ce qu'on ne nous dit pas aussi par derrière, qui peut faire peur. Après, ça va, hein, t'es pas considéré comme un monstre dans la famille. Hein. Je crois que peut-être celui qui a le plus de mal à l'accepter, c'est son frère. Je le cache pas, je l'ai admis, je suis passée totalement au-dessus de ça. Malgré qu'il y a eu des années, parce qu'après, ben, t'as eu quand même... même il y a eu l'histoire Marletta, mais ça n'a pas duré longtemps. Ensuite, tu as connu Vivian.
Alors, c'est plus compliqué que ça, quand même. Parce que...
Et après, t'es repartie sur une fille, quoi.
Mais moi, tu m'avais quand même dit, quand je te l'ai dit au téléphone, tu m'as dit, tu me fais peur.
Oui, ça pouvait faire un peu peur, ouais.
Mais pourquoi? Puisque j'avais déjà eu des copines.
Ben parce que peut-être que quand on est une maman, ben on a envie de voir ses enfants dans une certaine stabilité. Que peut-être que c'était peut-être parce que d'avoir cassé la relation avec Vivian, ça m'avait fait peut-être de la peine aussi. Parce que je m'attache aux gens avec qui vous êtes. Je m'étais attachée. Tu vois ce que je veux dire?
Et est-ce que tu pouvais imaginer à ce moment-là que j'allais finir dans les métiers quand même lié à l'intime ou au sexe?
Ah ben non, par contre, non. Là, ça a été plus, c'est plus chaud pour moi, ça, par contre. Petit à petit, hein, parce que je sais que je ne sais pas tout. Je sais que tu ne me racontes pas tout, je ne sais pas ce que tu fais exactement. Le peu que je sais, il faut en avoir le culot quand même, parce que moi, je suis une pudique, donc évidemment, ça... Il y a longtemps, je me suis dit, c'est mon bébé et tout, elle se montre comme ça, ouais, ça m'a chagriné quand même. Ouais, ça m'a chagriné.
Qu'est-ce qui t'a chagriné, vraiment?
Que tu te dénudes. Et puis que tu fasses des photos, qu'on te voit, que tu t'exposes.
T'avais peur de quoi?
Ben parce que moi, si tu veux, l'intime, je pense que c'est... Pour moi, c'est un jardin secret, c'est à moi. Moi, je n'expose pas comme ça.
Alors que vous, à votre époque, vous avez eu... Enfin, il y avait des actrices qui se déshabillaient. Enfin, c'était pas non plus... C'est pas comme si vous aviez rien vu. Tu vois, c'est pas non. Enfin, il y avait des pin-up, par exemple, ça c'est plus vieux que moi.
Oui, mais justement, moi j'ai connu ces années-là, je sais plus, moi, vers 68, 69, 70, jusqu'dans les années 80. Il y avait du déshabillage plus à la télévision. Les pubs, c'était que ça, mais franchement, moi j'étais pas. J'ai pas aimé ces périodes-là, justement.
Quel regard tu portes sur moi en tant qu'artiste? Ce que je fais, ce que je suis devenue?
Donc je pense qu'il y a un épanouissement, tu vis parce que tu rêves de vivre, donc en fait tu n'as pas eu de contrainte de faire autre chose, et je te verrais bien ouais, réaliser des films, mais Des films sur la montagne, ce serait bien.
Parce que tu veux plus que je fasse avec des gens nus?
Oh ben c'est pas mon trip total. Hein. Moi, j'ai pas d'attirance pour les corps nus, les gens qui se baladent à poil dans les maisons, j'aime pas.
Non, mais là, c'est des œuvres d'art.
Mais c'est vrai que moi, je suis à la base, on pourra pas me changer non plus. En astrologie, j'ai Vénus en 12. Donc, je suis pudique et cachée. Alors, c'est difficile d'exhiber.
Pourquoi? Moi, j'ai un trait exhibitionniste dans mon thème.
Mais ça dépend où on place ça. Mais quand tu es dans la maison et puis que tu marches toute nue dans la maison, il n'y a que toi qui peux le faire, ça. Moi, je le ferai pas.
Et le fait que j'ai fait du porno, tu le vis comment?
Pas terrible. J'aime pas trop. Mais j'ai pas vu, je sais pas ce que c'est, ton porno, là. Je sais pas. Mais oui, ça me gêne un peu.
Et mais le fait que je t'aurais préféré que je te le dise pas, par exemple, que ce non, que quand j'ai commencé.
Non, c'est très bien que je le sache. Je trouve que ce serait dangereux que je le sache pas. Mais je t'avoue qu'il y a bien des fois où... ou soit j'apprenais un petit truc, ou ceci, ou cela, ça m'a bien foutu les boules quand même, mais sans en savoir plus.
C'est-à-dire?
Mais je sais pas, parce que ça, c'est des trucs, peut-être une phrase échappée par ta sœur, ou une photo dans une revue et tout, je me dis... j'aime pas trop. Comme quand ton frère, une fois, il m'appelle et il me dit « Qu'est-ce qu'est fait Romy exactement? Pourquoi il y a des affiches d'elle dans Paris où elle est à poil ?» Il a dû voir ça à une presse quand tu avais fait la couverture de magazine de Cosette. Il est tombé dessus, quoi. Après, il n'a pas eu de mots méchants. Il se pose la question où t'es barré, quoi. Puis j'ai dit « Ah, on lui a proposé ça, ben écoute, ça lui fera un petit cachet, ça fera pas de mal au porte-monnaie. » Et puis ton père, c'est même pas la peine. Alors lui, c'est une 14. Je pourrais même pas l'imaginer une minute, quoi.
Imaginez quoi?
Ben ça, parce que lui, il sait pas tout ça. Hein.
Bon alors, il sait pas parce qu'il a jamais été là non plus. Mais enfin, c'est pas très... Il a juste à poser des questions. Hein.
Ah ben, il pourra jamais le faire parce que ça lui est impossible. Il est totalement déconfit. Voilà. Lui, il aurait tellement voulu te marier à un homme de Castanoussa.
La Grèce, c'est un sujet quand même parce que... Moi, j'y suis allée l'année dernière... avec ma copine, bon, ça tu sais. Et j'avais demandé à mon cousin grec comment ça se passait d'être deux filles en Grèce. Est-ce qu'on peut se tenir la main? Est-ce qu'il faut faire un peu gaffe? Enfin, en fait, j'avais quand même demandé c'était quoi le climat. Sachant qu'il savait très bien que j'allais au village et que je restais pas à Thessalonique. Donc, et en fait, lui, il m'a quand même répondu, et j'ai les preuves, tu vois, sur des messages écrits, où il me dit « Oh ben c'est bon maintenant, peut-être à la montagne c'est un peu plus compliqué, mais bon, ça va quoi, en Grèce, on a vu, enfin pour lui, il n'y avait pas de sujet. » Donc pour moi, il n'y avait pas de sujet. Donc j'y suis allée comme si tout le monde était au courant, puis tout le monde était bienvenu, quoi. Donc c'est vrai que j'ai pas trop compris que ce soit une affaire d'État.
Exactement, ça a été une affaire d'État. C'est même pire qu'en France, là-bas, au village, par exemple. En venant comme ça, si tu veux, tu ouvres des portes, mais les gens, ils sont pas encore prêts à ouvrir les portes. Ça se fera en son temps. Moi, j'étais partie pour être sacrément originale aussi, avec aussi un côté très artistique. Le fait de marier et avoir 3 enfants, ça m'a complètement remis dans les rails. Et il n'y a pas totalement d'épanouissement, finalement, dans ma vie, moi. Pour quelqu'un qui rêvait de voyager partout, moi, en fait, voilà, quoi. Mais bon, après, moi, j'ai pas de regrets de quoi que ce soit, parce que vous, je vous ai eu et je vous ai voulu. Waouh, j'ai adoré avoir mes bébés. Et j'ai toujours rêvé du meilleur pour vous. Protection plus plus. Ça, j'ai aucun regret par rapport à ça, même si ça m'a flingué. Pas mal d'années d'inquiétude, de soucis, de galères, de tout ce qu'on tu veux, quoi. Moi, j'ai jamais regretté ça.
En tout cas, on a une relation et c'est pas tout le monde qui a ça.
Exactement.
Bah, je pense qu'on peut arrêter.
Après, je n'ai jamais été la maman parfaite. Hein. J'ai fait plein d'erreurs. Hein. J'admets mes erreurs aussi. Hein. Et je pense même vis-à-vis de ton frère. Je fais beaucoup d'erreurs. Moi, je vous aime. C'est tout le principal. On n'est jamais parfait. La perfection, c'est que jusqu'au bout, tes enfants sont là pour toi.
Bon, je vais couper maman. J'ai ce qu'il faut. Allez. Ah. Charmant. Ok.
Ok. Et si vous me regardez, c'est donc là-dedans. Oui, très bien.
Détendez un tout petit peu le visage, c'est normal, c'est la première.
Et donc je fais le point sur vos yeux, donc ne bougez pas. Et ensuite je fais 1, 2, 3 et j'y vais. Donc 1, 2, 3.
Ok. Et...
super. Et non, pareil, si tu regardes plutôt devant toi.
Comme ça, plutôt.
Et plus, un poil plus haut, j'ai un peu tes yeux. Ok. Et Anaël, si tu me regardes
Mon amoureux, elle s'appelle Anaël. Et ça fait un an qu'on est ensemble et on est fiancés.
Donc c'est mieux quand nous, tu me regardes. Il y a un truc un peu plus, plus majestueux, je dirais. En fait, c'est pas mal. Là, les deux, vous me regardez, je trouve ça bien. Et 1, 2, 3.
Comment dans une relation, donc de partenaire, quelle place ça a, ce sujet-là, dans votre quotidien d'amoureux?
Ben, je pense qu'on en parle pas mal quand même. Et des fois, ça peut amener des petites zones d'insécurité ou de... pas de conflit, parce qu'on est quand même très rarement en conflit, mais ouais, des zones où il y a besoin de rassurer l'autre, ou etc. Et puis, ou alors, au contraire, où il y a des moments où ça va être moi qui suis pas très bien à cause d'un truc ou quoi. Et donc, on en parle quand même pas mal au final.
Moi, j'avoue que je préfère être avertie, en fait, quand on ouvre un client, même pour savoir si c'est une personne nouvelle. Juste d'être sûr de à quelle heure est-ce qu'elle est censée rentrer pour savoir est-ce qu'il faut que je m'inquiète.
Après, c'est quelqu'un avec qui c'est hyper facile de parler, donc même quand il y a des micro-zones de tension, on en parle suffisamment bien pour que ça aille.
Par exemple, de pas tout mélanger, parce que j'ai besoin du coup qu'on confirme parfois où est l'intimité. Je trouve que c'est important.
Oui, c'est ça. Et puis j'essaye de t'écouter aussi, de mettre des frontières qui soient plus fixes. Par exemple, bah, je sais que pour toi, c'est important que je ne revienne pas avec les mêmes sous-vêtements que j'avais pendant le rendez-vous, que je me change. C'est important pour toi que je me lave les dents, que... voilà, il y a des pratiques aussi que j'ai un peu modifiées. Enfin, j'essaye de m'adapter pour lui faire comprendre que, bah, qu'elle est importante pour moi et qu'on soit le mieux possible entre nous, quoi.
Il y a quelques années, j'ai eu la chance de rencontrer les bonnes amies, les vraies, celles qui n'allaient pas disparaître du paysage à chacun de mes chemins de traverse. Je crois que ça m'a rendue plus libre. Et puis, au détour d'un entraînement de boxe, transpirante, entre le sac de frappe et le vestiaire, je l'ai rencontrée, elle. Elle n'a pas souhaité apparaître dans ce documentaire, et pourtant on s'aime, et elle me rend heureuse. Et elle m'a appris que certaines choses n'appartiennent qu'à moi, moi qui exposais tout. Je voudrais que notre amour dure toujours, et je voudrais, et je voudrais, je voudrais.
Plus bouger contre toi me réchauffer. Je veux ralentir au rythme de tes doigts qui ressortent et qui entrent en moi. Ne plus rêver qu'à tes yeux bleus de glacier. Tip! répéter. Souviens-toi de, souviens-toi de, souviens-toi de moi. Cœur de sex worker, créé par Romy Alizé et Lisa Monteil.
Et réalisé par Gilles Mardi-Rossian. Musique originale, Vivian Allard. Avec Suzette, Amar, No, Alette, Brigitte et Anaëlle. Prise de son, Victoria Asper, Pierrick Charles et Mathieu Leroux. Mixage, Manuel Couturier. Cette création a reçu le soutien de Brouillon d'un rêve, de la SCAM et du dispositif La Culture avec la copie privée et l'aide sélective aux créateurs et créatrices de podcasts et de créations radiophoniques du ministère de la Culture.
C'était l'expérience.
Une émission produite par Aurélie Charon et Inès Duperron.